semaine, Macron a sillonné les lieux emblématiques de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il commémore les 100 ans de l'armistice autour d'un forum de la paix.
Attention.
Présente 70 chefs d'État, dont Trump, Poutine, Erdogan. Enfin voilà, tous ceux qui sont impliqués dans les guerres sanglantes de ces dernières années. Alors il semblerait quand même que Mohamed Ben Salman, désormais, donc je pense que vous voyez de qui je parle, c'est désormais célèbre pour avoir découpé en morceaux le journaliste opposant Khashoggi. Donc il semblerait quand même que lui ait la délicatesse de ne pas répondre à l'invitation. Mais il y a quand même des dirigeants des Émirats Arabes Unis qui sont impliqués aux côtés justement de l'Arabie Saoudite dans la guerre qui ravage aujourd'hui le Yémen et qui provoque même une famine effroyable. Guerre dont la France et Macron sont complices. Autant dire que ce ne sont pas ces gens-là, de ces gens-là qu'il faut attendre la paix. Ces commémorations officielles ne servent qu'à enchaîner la population à un drapeau et à un État prêt à nouveau à nous faire marcher au pas et à nous sacrifier sur l'autel des profits d'une minorité. Bien sûr, il faut se souvenir de la Première Guerre mondiale, de ces 10 millions de morts, de ces villages rasés, de ces millions de soldats revenus complètement brisés de cet enfer. Il faut se souvenir des soldats fusillés par leur propre chef militaire, parce qu'ils ne voulaient plus, parce qu'ils ne pouvaient plus monter à l'assaut. Il faut se souvenir de ceux tués quelques heures, voire quelques minutes avant que l'armistice ait été rendu public. Et s'il faut se souvenir de ces maréchaux que Macron honore aujourd'hui, qu'il y inclut ou pas Pétain, ça ne change pas grand-chose, eh bien c'est en gardant en tête qu'ils ont pour la plupart fait leurs armes dans les guerres coloniales, et que ce sont eux qui ont envoyé à l'abattoir des dizaines de milliers de soldats dans des assauts absurdes, par aveuglement, ou pour leur petite gloire personnelle. Ce ne sont jamais ceux qui décident et profitent de la guerre qui la font. Ce sont les ouvriers, les paysans qui sont envoyés à la boucherie. En 1914, l'État français est même allé les chercher dans les colonies. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels, a dit Anatole France. C'était vrai en 14 et ça l'est encore aujourd'hui. Alors oui, il faut se souvenir de toutes ces guerres, du militarisme et du piège qu'a toujours constitué le nationalisme, parce qu'il ne s'agit pas que du passé. Il s'agit aussi de notre avenir. Dans cette période de crise, les mêmes causes qui ont poussé à la Première Guerre mondiale, la rivalité exacerbée entre capitalistes, leurs visées impérialistes sont plus que jamais à l'œuvre. On ne se débarrassera pas de ces menaces guerrières sans renverser le capitalisme et les régimes qui les servent. C'est la leçon qui fut tirée par les ouvriers et paysans russes en 1917, par ceux d'Allemagne en 1918 et en 1919, par ceux de Hongrie et de Finlande. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait la révolution. Eh bien, cette leçon, il faut l'avoir en tête. Si tu ne veux pas la guerre, prépare la révolution. Alors qu'il voulait se faire mousser sur le sort des poilus, Macron a été pris à partie sur sa politique, et en particulier sur la hausse des carburants. Cette hausse des prix à la pompe, de 15 à 25% sur l'année, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'elle s'ajoute au reste. Elle s'ajoute à l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité, des loyers, des mutuelles, des assurances. Elle s'ajoute au chômage, qui est une catastrophe dans laquelle s'enfoncent des millions de jeunes et de moins jeunes. Et elle s'ajoute à des salaires et à des pensions de retraite qui sont déjà trop bas. Et ce ne sont pas les arguments écologiques brandis par le gouvernement qui calmeront la colère. Le gouvernement nous dit qu'il faut moins utiliser la voiture. Mais comment fait-on? Quand on est forcé de faire des dizaines de kilomètres pour travailler, quand les services publics de proximité ferment les uns après les autres, la poste, le centre des impôts, les services hospitaliers, les petites gares, on nous explique qu'il faut se désintoxiquer du diesel et acheter des voitures moins polluantes. La belle affaire. Quand on a déjà du mal à faire son plein, on n'a sûrement pas de quoi se payer une nouvelle voiture. l'écologie est un alibi. Le gouvernement sait pertinemment que les travailleurs n'auront pas le choix. Tout ce qu'ils visent, c'est de nous faire les poches pour pouvoir continuer de faire ces cadeaux aux plus riches. Alors les travailleurs qui veulent exprimer leur colère, eh bien, ils ont tout à fait raison de le faire. Depuis une quinzaine de jours, des initiatives diverses et variées circulent sur les réseaux sociaux pour le 17 novembre. Ici, il s'agit de bloquer une brocade, là, d'un rassemblement devant une raffinerie. Ceux que l'on appelle les professionnels de la route, les patrons routiers, les patrons du BTP, les artisans taxis, sont vent debout. Et on les retrouvera sans doute à la tête de cette fronde. Si la mobilisation est réussie, ils seront peut-être reçus à l'Élysée et Macron leur accordera peut-être de nouvelles exonérations. Mais si les travailleurs veulent se faire entendre au milieu de tout cela, eh bien il faut qu'ils mettent en avant des revendications correspondant à leurs intérêts. Se satisfaire d'un mot d'ordre aussi vague que « abat les taxes sur l'essence » reviendra pour les travailleurs à donner un coup d'épée dans l'eau. Parce que le gouvernement peut tout à fait baisser une taxe d'un côté et en augmenter de l'autre. Ce gouvernement est maître dans les tours de passe-passe. Regardez, d'une main, il baisse la taxe d'habitation, de l'autre, il augmente la CSG. Il prétend mettre en place le reste à charge zéro pour les lunettes et pour les appareils auditifs. Mais on apprend déjà que les mutuelles vont augmenter. Alors il est vain et il est impossible de se battre coup par coup contre telle ou telle augmentation de prix ou de taxes. Quand on appartient au monde du travail, la seule façon de stopper la chute de notre pouvoir d'achat, c'est de se battre pour l'augmentation des salaires et des pensions de retraite au même rythme que l'augmentation des prix que l'on subit. Les prix augmentent de 5, de 10%, eh bien il faut que les salaires et les pensions augmentent de 5, de 10%. Il faut l'indexation des salaires. D'autant plus légitime que les salaires et les pensions sont bloqués depuis des années à des niveaux trop bas. Macron et Philippe justifient toute leur politique en expliquant qu'ils veulent, je les cite, que le travail paye. Mais le travail ne paye pas. Le SMIC, il est à 1188 € net. Et il y a des millions de salariés qui sont payés au SMIC. Pour les travailleurs qui sont indispensables au fonctionnement de la société, pour les aides-soignantes, les infirmières, les ouvriers, les cheminots, les caissières, les facteurs, les enseignants, non, le travail ne paye pas. La charge de travail, les cadences, la productivité ont augmenté partout. Nulle part les salaires n'ont suivi. Si beaucoup se résignent aujourd'hui à faire des heures supplémentaires ou à travailler de nuit ou le dimanche, c'est justement parce que le travail ne paye pas. Dans cette société d'exploitation, ce qui rapporte, ce n'est pas le travail. C'est le capital. C'est le capital qui exploite le labeur de l'ensemble des travailleurs et qui permet à l'argent d'aller à l'argent, qui permet aux capitalistes qu'il possède d'accumuler rentes et dividendes de façon vertigineuse sans rien faire de leurs 10 doigts. Alors oui, il faut revendiquer notre dû, à nous les travailleurs, augmentation des salaires et des pensions et leur indexation sur les prix. Et s'il y a quelque chose à faire entendre le 17 novembre, et si les travailleurs qui sont autour de nous veulent se battre réellement, faire avancer leur sort, c'est pour cela qu'il faut y aller. Comme les autres syndicats d'ailleurs, met en garde contre le danger d'une récupération de ce mouvement du 17 novembre par les petits patrons anti-taxes et par l'extrême droite. Et elle refuse centralement de prendre des initiatives pour le 17 novembre. Évidemment, aucun militant ouvrier ne souhaite tirer les marrons du feu pour le patronat et être instrumentalisé par leurs ennemis politiques, l'extrême droite. Mais au lieu de déserter le terrain de la protestation, ce devrait être une raison supplémentaire pour proposer une politique de classe pour les travailleurs. Parce que tant qu'il s'agit de tirer à boulet rouge sur Macron et sur le fisc, tant qu'il s'agit d'une mobilisation un samedi, que cela ne pénalise pas trop le patronat. C'est sûr, l'extrême droite peut soutenir le mouvement. Mais ce n'est plus le cas. Dès que le mouvement prend un caractère ouvrier et anti-patronal, revendiquer de prendre sur les profits pour augmenter les salaires et les pensions, mettre en cause la responsabilité du patronat et de la bourgeoisie dans le recul de la condition ouvrière, dans tous ces licenciements qui continuent aujourd'hui, eh bien voilà qui ne peut pas être récupéré par nos ennemis politiques. Tout le problème est de se battre pour nos intérêts de classe. C'est de contester non seulement la politique du gouvernement, mais de contester aussi la politique patronale, parce que les deux vont de pair. Et je le dis en passant, nous ne sommes pas contre les impôts et les taxes. Nous sommes pour les impôts et les taxes si ce sont les plus riches, le grand capital, qui les payent. Transition écologique, eh bien le gouvernement n'a qu'à aller puiser dans les super profits d'un trust comme Total. Alors voilà de quoi discuter autour de nous, avec nos camarades de travail, dans nos familles, auprès de nos amis. Oui, nous avons toutes les raisons de rejeter Macron, sa politique, son mépris anti-ouvrier. Mais il faut aussi et surtout rejeter la classe sociale qu'il représente et le système qu'il défend. Alors, à bas l'exploitation et à bas le système capitaliste. Il ne fera qu'un temps. Mais la bourgeoisie, elle est installée au pouvoir. Depuis plus de 2 siècles, elle domine l'économie du haut de ses milliards. En 2017, l'envolée des bourses a fait gagner 1000 milliards de dollars aux 500 plus grandes fortunes mondiales. Le propriétaire de LVMH, Bernard Arnault, a vu son patrimoine s'accroître de 20 milliards, soit 1300 euros toutes les 2 secondes. Pourquoi accepte-t-on une telle domination? Si cette classe sociale dirigeait bien l'économie, qu'elle se développait et débouchait sur un progrès général de la société, on pourrait peut-être se dire que l'exploitation et le parasitisme qu'elle opère a une justification et qu'elle mérite de diriger. Mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Le capitalisme est en bout de course. Il est enfoncé dans une crise dont il ne peut pas sortir. Les marchés sont saturés. La surproduction est généralisée et elle condamne l'économie mondiale au marasme. Pour accroître ses profits, la bourgeoisie n'a plus que 2 solutions. Piquer des parts de marché à ses concurrents, c'est-à-dire mener la guerre commerciale, qu'elle prenne la forme du libre-échange, du protectionnisme, et accroître l'exploitation des travailleurs. C'est-à-dire faire reculer les conditions de travail, imposer aux salariés de travailler plus de façon à comprimer les salaires et les emplois. À cela s'ajoute le poids extraordinaire pris par la finance. Elle ajoute non seulement son parasitisme, mais elle menace en permanence de faire plonger l'économie dans un nouveau crash. Le capitalisme est par nature un système économique chaotique, parce qu'il est gouverné par le marché, la concurrence et la loi aveugle du profit. Mais la finance et la spéculation qui va avec amplifient cette instabilité générale. À la moindre annonce économique, à la moindre secousse politique, à la moindre incertitude, des masses fantastiques de capitaux se jettent sur tel ou tel secteur, affluent ou quittent tel ou tel pays. Tous les dirigeants économiques sont d'accord sur une chose, nous allons tout droit vers un nouveau krach semblable à celui de 2008. La seule question qu'ils ont, c'est de savoir quand il se déclenchera. Autrement dit, même ceux qui dirigent et qui profitent de ce système économique n'y croient pas. La bourgeoisie a mérité un temps son appellation de classe révolutionnaire. Bien sûr, elle a toujours fait ses profits sur la peau des travailleurs. Elle a accumulé ses premiers capitaux dans le sang et la boue, comme disait Marx, au travers du commerce triangulaire, de l'esclavage et d'une exploitation féroce dans les bagnes industrielles. Mais contrairement à l'immobilisme de la noblesse de l'Ancien Régime, elle, du parasitisme pur et simple, la bourgeoisie réalisait ses profits en construisant. En construisant des usines, des routes, des ponts, des chemins de fer. Son système reposait sur la production et sur le développement de l'industrie, une immense machinerie qui a fait naître un système productif qui a dépassé tout ce que l'humanité avait inventé. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie un capitalisme, non plus rien de progressiste. Alors bien sûr, la vie continue, il y a des progrès scientifiques, des innovations. Et le capitalisme a l'art de créer de nouveaux besoins et de façonner de nouvelles habitudes sociales. Prenez la connexion Internet, elle est maintenant devenue indispensable. Et peut-être même plus maintenant que la machine à laver la vaisselle. Mais à côté de ça, eh bien, les familles ont toujours du mal à s'acheter de la viande, du poisson, du fromage. Elles ne peuvent pas se payer une mutuelle ou le permis de conduire des enfants. Le smartphone, par exemple. Oui, il a pénétré jusque dans les régions les plus reculées d'Afrique ou d'Asie. Et il y est utile. Mais ce sont parfois des régions qui n'ont même pas l'électricité, ni l'eau courante. Les dirigeants des pays riches parlent de relancer la conquête spatiale. Mais ils disent ne pas avoir d'argent pour maintenir les hôpitaux de proximité, pour rénover les chemins de fer, pour entretenir les routes ou les ponts, à éviter des catastrophes comme celle de Gênes, mais celle aussi, plus récemment, de Marseille. Des centaines de milliards alimentent les marchés financiers et la spéculation, au lieu de servir pour construire, rénover, faire de la recherche. Et ce, alors même que des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, ont abandonné la fabrication de médicaments contre la récidive du cancer, par exemple, contre Parkinson. Alors la science avance et permet une maîtrise croissante de la nature, ben nous sommes incapables de contrôler les conséquences de notre propre activité économique sur la planète et sur le climat, et donc d'enrayer la catastrophe écologique. La société, l'économie marche sur la tête parce qu'on ne peut pas décider collectivement en fonction des besoins du plus grand nombre. Les choix fondamentaux pour développer harmonieusement la société nous échappent. Ils sont laissés dans les mains de la classe capitaliste et au hasard de l'initiative privée et du marché, et c'est un immense gâchis. Et le premier de ces gâchis, c'est le fait que des millions de femmes et d'hommes sont condamnés au chômage, à l'inactivité, alors qu'ils voudraient être utiles à la société. Oui, les capitalistes sont devenus un obstacle au progrès collectif, et à l'échelle de la société, le rôle réactionnaire de la bourgeoisie ressort par tous les bouts. La crise du capitalisme, les rivalités entre les bourgeoisies nationales nous ont déjà mené à deux guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère s'entassent dans les camps infâmes ou sont traqués et condamnés à errer de pays en pays quand ils ne meurent pas dans la traversée de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de se transformer en une guerre plus générale parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalités des grandes puissances. Et puis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Dans toute l'Europe, la crise économique, le plan d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent des courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. En Suède et en Allemagne, les dernières élections ont marqué un renforcement de l'extrême droite. Les Le Pen, les Salvini, disent défendre les intérêts des plus pauvres en empêchant les migrants de mettre le pied en Europe. La réalité, c'est qu'ils sont aussi anti-ouvriers qu'ils sont anti-migrants. Alors oui, la situation est grave, mais on ne se protégera pas des dangers de l'extrême droite en faisant de la morale aux travailleurs qui prêtent l'oreille aux idées nationalistes. On ne pourra combattre le poison de ces idées dans la classe ouvrière qu'en leur opposant les intérêts des travailleurs et la nécessité de riposter à la lutte de classe que le patronat mène tous les jours. À toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits « nationaux » contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier a opposé le mot d'ordre de « travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Les premiers militants socialistes et communistes ont opposé l'internationalisme au patriotisme, le drapeau rouge au drapeau tricolore. Eh bien, nous devons retrouver ces valeurs du mouvement ouvrier. Nous devons nous démarquer du chauvinisme et du nationalisme. Tous ceux qui montrent du doigt l'étranger, l'Europe ou l'Allemagne, exonèrent les patrons bien français de leurs responsabilités dans la crise et dans le chômage. Militer pour montrer aux travailleurs que les politiciens de la bourgeoisie cachent les responsabilités du patronat derrière des boucs émissaires est la seule perspective. Militer pour défendre parmi les travailleurs une politique de classe contre la bourgeoisie et son ordre pourrissant est la seule perspective. la crise, les inégalités, l'exploitation ou la montée des idées réactionnaires ne sont pas le résultat de mauvais choix économiques que l'on pourrait changer du haut des institutions. Elles sont la résultante d'un ordre social. Le fond du problème, ce n'est pas tel ou tel homme politique. Ce ne sont même pas ses bonnes intentions vis-à-vis des travailleurs. C'est l'ordre social dans lequel il gouverne. C'est la classe sociale et les lois économiques auxquelles il se soumet. Tant que la bourgeoisie règne du haut de sa propriété privée, c'est elle qui détient le pouvoir. Et c'est elle qui impose ses intérêts. Confronté à cette réalité, Léon Blum avait parlé en son temps du mur de l'argent. C'était dans les années 30. Plus récemment, Hulot en a reparlé en dénonçant ce qu'il appelle, lui, le poids des lobbies. De fait, tout gouvernement, quelles que soient ses déclarations et même ses intentions, gère les affaires de la bourgeoisie comme s'il était son conseil d'administration. Les politiciens qui prétendent, à la tête de l'État, dans le cadre de cette société capitaliste, pouvoir imposer une politique qui distribuerait mieux les richesses, prendrait mieux soin de la planète, ou qui réglementerait et régulerait un peu mieux le capitalisme pour éviter les crises, sont des illusionnistes. Il n'y a pas d'autre issue que de renverser le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie et de réorganiser l'économie sur des bases collectives et planifiées démocratiquement pour sauver l'humanité de la barbarie. Tout dans la situation actuelle montre que les travailleurs ne parviendront pas à défendre leurs conditions d'existence sans renverser ce pouvoir de la bourgeoisie. La moindre revendication se heurtera au pouvoir patronal. Avec la crise, dans cette situation où la bourgeoisie est à l'offensive pour reprendre des droits aux travailleurs, elle ne lâchera rien. Chaque revendication sérieuse venant des salariés sera intolérable pour elle. Et cela ne pourra que faire l'objet d'une guerre sociale. Alors, si on veut assurer nos besoins vitaux, des salaires et des pensions de retraite dignes, imposer de répartir le travail entre tous, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on pourra véritablement combattre le chômage, eh bien, il faut être prêt et il faut être conscient qu'on aura à se battre jusqu'à exproprier la bourgeoisie et lui arracher le pouvoir. Pour que le combat des travailleurs pour leurs intérêts matériels aboutisse, il doit se mener avec la conscience communiste révolutionnaire. Qu'il faut exproprier la bourgeoisie et la remplacer au pouvoir. La lutte pour les revendications quotidiennes immédiates et la lutte pour l'émancipation totale des travailleurs ne doivent faire qu'un seul et même combat. Aujourd'hui, militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. Cette conscience, elle est loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs. Mais les tâches qui se posent à nous ne se déduisent pas du moral des travailleurs à tel ou tel moment. Elles se fondent sur la réalité objective de la lutte de classe et sur la situation du capitalisme. Elles se fondent sur le fait que la classe ouvrière est une classe que rien n'attache à cette société. Comme le disait Marx, elle n'a que ses chaînes à perdre. Oui, ce sont les travailleurs qui peuvent mener le combat contre la bourgeoisie et représenter l'avenir, à condition d'en être conscient. Les travailleurs sont en première ligne dans la lutte de classe. Il suffit de franchir la porte d'une entreprise pour comprendre qu'il faut se défendre au quotidien, que ce soit pour résister aux cadences, se faire payer ses heures de travail ou tout simplement pour se faire respecter. Cette résistance s'exerce de plein de façons. On peut traîner les pieds, faire semblant de ne pas avoir entendu tel ou tel ordre, mais ça reste individuel. On peut aussi pétitionner, se rassembler pour aller voir collectivement la direction. On peut débrayer jusqu'à se mettre en grève. Et c'est là, c'est justement dans ces actions collectives que les travailleurs découvrent leur puissance sociale et leur capacité à changer le rapport de force avec le patronat. La prise de conscience de la lutte de classe peut se faire quasi naturellement. Découvrir que l'on peut se défendre collectivement et inverser le rapport de force au cours de la lutte de classe, c'est une expérience que peuvent faire tous les travailleurs. Mais la conscience politique d'avoir à renverser la bourgeoisie et à prendre le pouvoir est une toute autre affaire. Cette conscience-là nécessite une politisation et elle dépend de l'existence d'un parti et elle dépend de l'existence de militants communistes révolutionnaires. La seule perspective qui s'ouvre à nous, c'est de faire confiance dans la classe ouvrière et de l'aider à accéder à cette conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Oui, les travailleurs sont capables de prendre le pouvoir et de l'exercer mille fois mieux que ne le fait la bourgeoisie. Collectivement, la classe ouvrière a la capacité de réorganiser toute l'économie au profit du plus grand nombre. Les grands médias et les politiciens nous expliquent que sans cette bourgeoisie, sans ce patronat, rien ne se ferait, parce que c'est lui qui entreprend et qui sait diriger, nous dit-on. Mais prenez ce qui se passe à l'échelle d'une grande entreprise. Dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne dirige pas, elle encaisse. Elle a pris des parts dans l'entreprise, elle est actionnaire, mais elle ne met jamais les pieds dans l'entreprise. Pour diriger ces entreprises, elle veille, du haut en bas de la hiérarchie, toute une armada de mercenaires obsédés par la rentabilité. Et c'est sur les ouvriers, sur les employés et les comptables, sur tous ceux qui, sont au bas de l'échelle, que retombent les problèmes et les conséquences, parfois, de leurs décisions absurdes. La classe ouvrière fait déjà tourner toute la société. Elle le fait aujourd'hui pour le compte de la bourgeoisie. Eh bien, elle est capable, demain, de la faire tourner pour son propre compte. Les travailleurs n'ont pas besoin des actionnaires qui ne sont que des parasites pour produire des voitures, des salades, pour faire rouler les trains, pour éduquer ou pour soigner. Prenez les salariés des EHPAD qui se dévouent aux côtés des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers qui s'esquintent la santé sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Prenez les ouvriers des chaînes de montage. Prenez les bataillons du nettoyage, du gardiennage, de la grande distribution. Ces femmes et ces hommes savent ce que cela veut dire travailler et devoir se serrer la ceinture. Ils représentent mille fois mieux la vie et les intérêts de la majorité de la population. Et nul doute que s'ils accédaient au pouvoir, eh bien ils auraient, eux, pour priorité de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, loger tout le monde, soigner, donner du travail et de l'éducation à tous, accueillir les migrants, tous ces problèmes trouveraient leur solution parce que les décisions ne seraient plus guidées par les intérêts égoïstes d'une minorité, mais elles seraient dirigées pour satisfaire les intérêts de toute la collectivité. Alors, voilà nos convictions, camarades. Vive les travailleurs, vive leur lutte dans la perspective de la révolution sociale.